Donc, je suis très contente de vous voir tous. Avec tous ceux que j'ai parlé, ils ont dit qu'ils ont passé des belles fêtes de Noël. Et j'espère en effet que ça a été la chose comme cela pour vous tous. Donc, hier, nous avons fêté Noël, la naissance de Jésus dans une étable à Bethléem. Donc, ici, nous l'avons déjà fêté il y a une semaine avant, parce que le sens de cette fête se perd de plus en plus dans notre société. J'étais choquée en allant au magasin de voir tout d'un coup qu'on associe Noël au pôle Nord. Bon, au moins, il y a des étoiles qu'on peut là acheter pour décorer avec une bonne théologie derrière. Nous nous rendons compte, probablement tous, que dans ce contexte, il est très important que les églises, nous, les membres des églises, nous rappelons autour de nous qu'est-ce que c'est vraiment Noël. Et ça, c'était le but de notre fête de Noël il y a une semaine ici, dans des termes simples, avec des décorations. Donc, Esther Betz qui a fait la décoration en partie devant, qui a fait la crèche, c'est pour cela que nous l'avons fait. Maintenant, je n'arrive pas à avancer. Oups, j'arrive maintenant. Alors, on a passé Noël, et qu'est-ce qu'il y aura après? J'aimerais aborder trois points. D'abord, revoir les textes. Et l'évangile qui nous en parle le plus, c'est l'évangile de Matthieu. Donc, nous allons nous rendre compte de toutes ces actions qui ont suivi, finalement, la nuit de Noël, la naissance de Jésus. Et nous allons commencer un peu par cela. Alors, pour l'illustrer, et ne sachant pas qui viendra à ce culte, étant prêt aussi pour les enfants, j'ai regardé les illustrations sur le réseau. Et je suis tombée sur un peintre français qui a vécu longtemps en Angleterre, qui s'appelait James Tissot. Donc, il a vécu surtout, il était actif dans la deuxième moitié du 19e siècle. Il était catholique pratiquant. Pardon, est-ce qu'il... À la lumière. Et la dernière quinzaine d'années de sa vie, il a peint surtout des tableaux religieux. Et il a fait une série de 365 gouaches intitulée La vie de Jésus. Et ces gouaches sont devenues très célèbres. Il y avait des livres qui ont été édités. Et cette collection se trouve maintenant à New York, dans le musée de Brooklyn. Et ils ont mis tout sur Internet. Si vous vous intéressez à cela, c'est facile à aller voir. Tapez James Tissot, Brooklyn, et regardez ses peintures. Alors, là, ce qu'il y a, c'est les trois mages qui sont en route, en fait, selon les commentaires, pour aller voir le bébé Jésus. Donc, on voit leur robe splendide, couleur safran, ils traversent ce paysage accidenté, donc en route depuis loin. Et si on prend le texte de l'évangile de Matthieu, donc chapitre 2, je lis « Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Donc, les voilà en route. Et nous allons continuer au verset 3. « Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Donc, Bethléem, au sud de Jérusalem, à peu près 8 kilomètres, et Matthieu dit spécifiquement Bethléem en Judée, parce qu'il y avait un autre village qui s'appelait Bethléem, mais il était proche de Nazareth, donc dans une autre partie. Les mages, qui étaient ces personnages splendides ici sur des chameaux? Alors, le mot vient du persan, apparemment, et ça désignait une caste religieuse qui s'occupait de l'astrologie, divination, interprétation des rêves. Et puis plus tard, dans le premier siècle, après la naissance de Jésus, le mot mage et chaldéen était utilisé pour désigner des religions ésotériques. Mais là, ils ont vraiment une mission différente. Ils ont vu une étoile qui était très brillante, et ils ont pensé que c'était le signe de la naissance de quelqu'un d'important. C'était une croyance qui était courante à l'époque, et donc ils se mettent en route et cherchent cette personne. Juste une petite parenthèse, souvent dans les crèches que nous voyons, ces mages ont des couronnes de rois, et on parle des rois mages. Ça, c'est une légende ou une tradition qui est beaucoup plus tardive, qui date du Moyen Âge. Mais c'est entré tellement dans la culture que souvent les enfants entendent parler des rois mages, et on a eu aussi des enfants déguisés dans un mélange roi et mage. On parle dans ce texte d'une étoile. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que dans un journal scientifique de haute qualité, Science, Nature, il y avait un article il y a quelques années par les article scientifique qui a calculé les conjonctions d'étoiles et a indiqué que c'était probablement ce qui a attiré l'attention. Ça aurait pu être une conjonction de deux planètes, Jupiter et Saturne, qui apparaissait à ce moment-là extrêmement brillant dans le ciel, qui tombait à peu près dans la bonne période. Donc, je trouvais ça intéressant d'avoir un article qui cite l'évangile de Matthieu au milieu de l'article scientifique. Et je trouvais ça bien dans notre société qui devient de plus en plus, finalement, non religieuse, qui ne s'occupe pas de cela. Maintenant, nous avons vu la prochaine diapositive qui ne passe pas. Merci beaucoup. Donc, cette citation, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Ça, c'est une citation de l'Ancien Testament, du prophète Michée. Et ça, c'est une particularité de l'évangile de Matthieu, qui s'adressait à un public surtout juif, et il ancrait le message, la bonne nouvelle, aussi dans la tradition de l'Ancien Testament. Il sort les prophéties, par exemple, ici. Donc, cette prophétie que Michée a annoncée, c'était 700 ans avant la naissance de Jésus. Au temps de Michée, l'Assyrie prenait l'expansion, et aussi sur la Judée. Michée dénonce dans son écrit les injustices sociales. Il annonce la dévastation de Jérusalem, Mais au milieu de tout cela, il dit « l'espérance n'est pas éteinte » et il annonce le retour de la justice et de la paix avec la naissance de cet enfant. Et donc, cette prophétie était associée avec un grand espoir d'un renouveau. Et Matthieu dit à ses lecteurs, « Mais voilà, en Jésus, cet espoir est accompli. Nous pouvons vraiment être sûrs. » Le texte de Michée, les deux versets, « Et toi, Bethléem Ephrata, tu es petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. » Donc, ce texte en Michée nous dit que cet enfant, ça c'est l'espérance, que tout sera changé, mais il dit aussi que cet enfant était là bien avant et qu'il a une destinée éternelle. Donc, il va plus loin que cette citation. Alors, les rois mages ou les mages se rendent auprès de Jésus et vont ce qu'on appelle l'adorer, l'adoration des rois mages, le même peintre. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment de l'étoile, où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc, cette image est assez correcte par rapport au texte. Il place la scène dans une maison, comme l'évangile de Matthieu le dit. Et Pierre Perrault, donc, dans sa prédication dimanche passé, l'a mentionné. Il y a un certain temps qui s'est passé entre la naissance de Jésus et ce moment-là, très probablement un déplacement de l'étable vers une maison. Maintenant, pour le texte, donc il donne en bas, le verset 11, l'or, l'encens et la myrrhe. Donc ça, c'est de ce qu'il y a de plus précieux à ce temps-là et le plus facile à transporter. Aussi, c'était un bon investissement au moment où on n'avait pas des chèques, des cartes bancaires ou d'autres façons de faire. C'était vendable et ça pourrait être utilisé pour une subsistance. Donc, ils arrivent avec des cadeaux précieux, avec une grande valeur, mais aussi pratiques. Puis, on lit le verset 12, « Puis avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. » Donc, ils ne retournent pas pour aller vers Hérode. Alors, ils étaient avertis dans un rêve, et on va voir tout à l'heure aussi dans un texte plus loin, que Joseph était averti dans un rêve. Ce n'est pas une chose rare, on le voit assez souvent dans l'Ancien Testament. Par exemple, Eliphaz, ami de Job, reçoit un message dans un rêve. Jacob reçoit un message dans un rêve. Son fils Joseph en Égypte reçoit des messages et peut interpréter les rêves. Aussi Salomon. Donc, on a là une tradition. Comment on parle de quand, lorsque Dieu s'adresse à une personne, et cette personne s'est perçue comme si c'était dans un rêve. Alors, ce qui suit, c'est vraiment plein d'action. Déjà, les rois mages qui vont vers Hérode, ou qui apprennent où est Jésus, qui vont vers Jésus, qui lui donnent les cadeaux, mais après, ils agissent bien, ils ne vont pas rapporter à Hérode. Et ça continue. Alors, lorsqu'ils furent partis, donc les mages, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit d'une nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Donc ici, le dessin, avec une tristesse, c'est Gouache de James Tissot, où Marie, avec le bébé Jésus sur un âne, et Joseph, traverse le désert pour se rendre dans ce pays lointain. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous vont à Noël à Zaspe. Je ne sais pas, quelqu'un y a été à Noël. Si vous y allez, ça vaut la peine de regarder depuis le car postal, si vous le prenez, depuis la voiture. Il y a un village avant Stalden qui s'appelle Neubrück, parce qu'il y avait un nouveau pont qui a été construit. Pour nous, aujourd'hui, il paraît vieux. Au bout de ce pont, comme c'était souvent le cas dans les cantons catholiques, il y a une chapelle. Et sur ce pont, il y a chaque Noël jusqu'à Nouvel An une statue de Marie avec le bébé Jésus, avec son manteau bleu sur un âne et Joseph à côté en route pour Égypte. Donc, avec nos filles, on s'est souvent arrêtées là pour le regarder quand elles étaient petites. Donc, quelque chose, finalement, qu'on oublie parfois. Et ce texte, donc, nous parle de nouveau d'une prophétie. Le dernier verset, 15, « Il resta là jusqu'à la mort d'Hérode, avant que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » Alors, cette prophétie, en fait, ça vient du prophète Osée, qui là parle, en fait, qui rappelle à Israël que Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Donc, c'est une allusion à cet événement majeur pour le peuple d'Israël, de la sortie d'Égypte. Là, mais maintenant, le contexte. On a l'Hérode qui pourrait poursuivre Jésus, donc qui disait qu'il allait faire tout pour aller l'adorer, mais en fait, les mages se méfient. Et puis, en effet, ils avaient absolument raison de le faire. Parce que Hérode, au moment où il s'est rendu compte que les mages ne sont pas revenus vers lui, qu'il ne sait pas plus qui est ce roi qui est né. Il a fait massacrer les enfants à Bethléem. Donc, un tableau qui est effrayant, qui a l'air cruel, mais qui finalement correspond au personnage de Hérode. Donc il s'agissait de Hérode le Grand, qui a régné sur Israël plus que 3 décennies, et il était réputé pour sa cruauté. Par exemple, les historiens nous rapportent qu'il a tué 45 membres du Sanhédrin, il les a fait tuer. Sa seconde femme, Marianne, il l'a fait tuer. 2 de ses fils aussi, tout ça avant ce massacre des enfants. Donc ce n'était pas surprenant, et les mages avaient raison de ne pas aller vers lui de retour, et Joseph avait raison d'aller vers l'Égypte averti, parce que vraiment il y avait un grand danger. Donc, ce texte nous décrit cet événement. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qui s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Alors on a cet événement dramatique d'une cruauté de Hérode qui n'est vraiment pour nous incroyable dans notre pays, on ne peut pas l'imaginer. Et donc Matthieu rappelle qu'il y avait vraiment déjà des situations comme cela et que cette tristesse a été annoncée. Le verset 18 se rapporte au texte de Jérémie. Donc, et Matthieu compare finalement la tragédie, le massacre des enfants à Bethléem à celle de la conquête de son pays par Babylone et aux atrocités commises à cette époque-là à Rama. Donc Rama était le lieu de rassemblement des déportés. Rama se trouvait à 8 km au nord de Jérusalem, donc pas au même endroit que Bethléem, et les exilés passaient par là en route pour Babylone. Par contre, proche de Bethléem, donc où est né Jésus, il y avait la sépulture de Rachel. Et pour les Israélites, Rachel représentait le prototype de la mère. Et d'où cette référence en Jérémie est ici reprise en Matthieu. Donc, on a ici cette situation dramatique, triste, mais où finalement Matthieu rappelle d'autres événements tristes et il va pointer par la suite vers un avenir différent. Juste pour les historiens entre vous, probablement vous avez lu dans les journaux des commentaires sur Jésus n'est pas né à l'an 1, mais il est né bien avant. C'est très probablement juste, au moins si on utilise la datation de la mort de Hérode, donc ce roi cruel qui a fait tuer les jeunes. Hérode est mort l'an 4 avant notre ère, si on le compte correctement. L'erreur ne vient pas d'avoir au début la naissance de Jésus n'est pas un événement historique. Par contre, ça c'était parce que notre l'an 1 a été déterminé au 6e siècle, en 527, en reconstruisant tous les événements avant. Et c'est là où l'erreur s'est passée. Il y avait des problèmes, et je ne vais pas entrer dans les détails, des problèmes des calendriers. Donc, si quelqu'un vous dit que l'histoire de Jésus n'est pas vraie parce qu'ils se sont trompés de date, ce n'est pas vrai. Alors, maintenant, donc, nous avons vraiment cette histoire triste. Et quelle est la suite? Et on continue le dernier passage. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville habitée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé: il sera appelé Nazaréen. Donc, là, en Égypte, Joseph, cette fois, reçoit un deuxième message et il retourne, mais il ne retourne pas à Bethléem. Archélaüs, c'était un des fils d'Hérode et il n'était pas moins cruel. Donc, avant d'avoir repris le gouvernement, par exemple, suite à la mort de son père, il a fait massacrer des milliers de Juifs lors d'une fête de Pâques à Jérusalem. Alors, Joseph ne va pas retourner dans la région qui est contrôlée par ce roi-là, mais va à Nazareth, qui était sous la domination d'un autre fils de Hérode, Hérode Antipas, que nous retrouvons plus tard dans l'évangile de Matthieu. Alors, pourquoi, d'où vient cette citation « Il sera appelé Nazaréen » ? Alors, c'est difficile à trouver une citation précise, mais une des pistes qu'on trouve dans certains des commentaires, c'est qui va ainsi de suite. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, lorsque Jésus appelle ses disciples, Nathanaël dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Donc, il exprime une idée que Nazareth, c'est vraiment pas l'endroit de référence d'où viennent des gens célèbres et bons. Et on retrouve ces annotations aussi ailleurs. Maintenant, donc qu'il y avait des personnes finalement d'une mauvaise renommée qui venaient de ce village. Alors, certains commentateurs font le lien entre cette idée-là et le fait que l'Ancien Testament, plusieurs prophètes nous avertissent que celui qui va naître, le Messie, va vivre l'opprobre et puis il va souffrir. Et donc, ils mettent de pair cette souffrance et finalement le lieu qui ne prédestine pas à un avenir radieux pour nous dire, oui, Jésus est ce roi qui va souffrir pour nous. Donc ça, c'est l'explication que je peux vous donner par rapport à cette prophétie. Alors, pour ne pas finir ce film d'action en quelque chose, sur quelque chose de tellement triste, les meurtres, les personnes qui étaient assassinées, nous devons quand même tenir compte que Jésus de Nazareth, nous a apporté la bonne nouvelle. Lui, il a, avec ses disciples, se déplacé, annoncé le royaume de Dieu. Et ça, on retrouve plus tard dans l'évangile de Matthieu. Donc, j'ai pris exprès cette image pour ne pas finir que sur Noël. Alors, la naissance de Jésus, comme Matthieu nous le dit, est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Alors, si les enfants avaient été ici, on aurait pu accentuer toutes les actions qu'il y avait. Maintenant, ce qui change nos vies, ce n'est pas juste le fait qu'un enfant est né à Bethléem, mais ce qui suivait. C'était l'enseignement de Jésus, c'était sa mort sur la croix et sa résurrection. Et je crois que nous devons nous rappeler de cela. C'est important de rappeler à nos contemporains que Noël, c'est la naissance de Jésus. Mais il ne faudra pas s'arrêter là. Il faudra qu'on puisse susciter leur curiosité pour apprendre plus sur Jésus, pour apprendre comment Jésus peut influencer dans notre vie. Et c'est tout un programme que nous devrions presque faire dans notre Église. Et le partager ensemble, comment parler aux personnes entre nous, dans nos familles, dans nos lieux de travail, nos voisins, pour les attirer, pour comprendre, pour qu'ils puissent comprendre ce qu'est le message de Jésus. Et puis que finalement, ce n'est pas qu'une naissance à Bethléem qui change nos vies, mais c'est notre engagement par rapport à cet engagement. Par rapport à cet appel que Jésus nous donne. Voilà. Et pour clore, la merveilleuse crèche que nous avons pu admirer il y a une semaine, faite par Esther Beth.